Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'environnement, aujourd'hui consacré aux enjeux climatiques et où il sera question aussi de corail.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Et oui, parce que le corail se meurt et sa disparition probable nous alarme sur l'importance des changements qui s'opèrent et qui affectent actuellement notre planète.
Quand on plonge ici, c'est superbe. Les coraux sont en excellente santé. Vous pouvez voir tous ces poissons. Il y a une myriade d'espèces différentes. C'est simplement fantastique. Ça rivalise avec la Grande Barrière de Corail, là d'où je viens en Australie.
Le corail est un indicateur qui nous montre à l'évidence que les choses ne vont pas bien. Le problème de fond, c'est le réchauffement climatique. Et pour lutter contre ce phénomène qui augmente et qui, au-delà des coraux, va engendrer des situations tout à fait catastrophiques un peu partout sur la planète, il faut trouver d'urgence une réponse mondiale. Et là, ça devient très compliqué car tous les pays en négociation sont loin d'être d'accord et l'échéance, c'est dans 5 mois à Copenhague. Tout un tas de questions que nous allons aborder avec une des grandes spécialistes du climat, Karine Gavant, spécialiste du climat à Greenpeace France, tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
On économise l'eau, on n'utilise pas trop d'électricité et
on n'abîme pas la nature, on ne tue pas les animaux.
Mais tout de suite, c'est le jeu de cette première partie. On décortique l'actualité environnementale avec vous, Yannick Jadot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, on est ravis de vous recevoir d'abord, hein, parce que vous êtes l'un des parrains de l'émission. C'est vrai que vous étiez dans ce studio. Enfin, c'était pas celui-là, mais vous étiez à RFI le jour de la première de cette émission, le 19 janvier dernier. Vous étiez en pleine campagne électorale, alors pour Europe Écologie, avec Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, José Bové. Le 7 juin dernier, mais vous avez fait un excellent score aux élections européennes en France et vous voilà député européen aujourd'hui. Alors, vous venez d'ailleurs de faire votre entrée au Parlement avec vos collègues là cette semaine. Comment se passent vos nouvelles fonctions?
Eh ben écoutez, on essaye de prendre ses marques, hein. C'est très formel, c'est l'élection du président du Parlement, des vice-présidents, on se répartit dans les commissions parlementaires. Pour ma part, je serai sur les enjeux d'industrie, d'énergie et de commerce international. Et puis voilà, on essaye de comprendre comment fonctionnent ces grands bâtiments où on a beaucoup de peine à se retrouver.
C'est compliqué?
Ouais, c'est un peu compliqué. C'est pas des bâtiments très agréables à vivre. Parce que quand vous êtes là-bas, vous avez quand même tendance à y passer 12 heures par jour. Et donc, c'est pas seulement y travailler, c'est aussi y vivre.
Chaque député est attaché donc à un certain nombre de thématiques?
Oui, on se répartit, il y a des commissions parlementaires, hein, et évidemment pour nous l'enjeu est d'arriver à transposer dans le droit européen ce qu'on a défendu dans la campagne électorale, c'est-à-dire cette transformation écologique de nos modes de production, ben justement pour lutter contre les changements climatiques, pour continuer à pousser l'idée que le climat et l'emploi, c'est le même combat.
Alors on va commencer ce tour de l'actualité, Arnaud, avec cet appel lancé au monde depuis les îles du Pacifique.
Oui, les dirigeants des États de Micronésie, hein, dans l'océan Pacifique, ont lancé un appel aujourd'hui à l'aide internationale pour qu'ils ne soient pas submergés par l'élévation du niveau des mers du fait du réchauffement climatique. Déjà en mai, lors de la conférence mondiale des océans en Indonésie, des pays insulaires avaient déjà exprimé leur crainte que des nations entières soient effacées de la surface du globe. En raison évidemment de la montée des eaux. Alors, un rapport de l'ONU avait établi déjà en 2007 que quelques 150 millions de personnes pourraient être concernées, évidemment, et déplacées en 2050. C'est une des conséquences tragiques de cette dérégulation climatique dans lesquelles les pays industrialisés ont une responsabilité historique, Yannick Jagodeau.
Absolument. On est vraiment dans cette situation où ces habitants des îles de Micronésie sont les moins responsables des changements climatiques, mais clairement les premières victimes. Ils sont aux avant-postes de l'impact des changements climatiques. Vous avez souligné l'impact estimé en termes d'élévation du niveau de la mer par le précédent rapport du GIEC et cette grande communauté scientifique internationale qui nous dit ce que va devenir le climat. On sait depuis que l'élévation du niveau de la mer pourrait être beaucoup supérieure à ces estimations parce qu'on va mieux prendre en compte la fonte des glaciers, la fonte de la banquise, l'expansion
de
la mer.
C'est extrêmement compliqué à apprécier.
C'est assez compliqué, mais ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait être sur des échelles autour de 1,5 m d'élévation du niveau de la mer, et là c'est plus 150 millions de personnes qui seraient concernées, mais beaucoup plus, puisque 2/3 de la population mondiale vit sur les côtes, dans un rayon de 30 kilomètres, et c'est la disparition des îles de Micronésie, c'est la mise en danger de pays comme le Bangladesh, qui sont des pays de delta, très peu au niveau de la mer, et puis beaucoup plus proche de nous, ça nous concerne aussi. Moi, quand j'ai fait campagne, j'étais sur l'île de Sein, qui est une île absolument emblématique, au large de Brest, qu'on connaît bien, qui est à 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer, et les habitants nous disent aujourd'hui, quand on y va, pour la première fois, la peur de la mer est entrée dans notre maison, parce que l'accroissement des tempêtes, l'élévation du niveau de la mer fait que aujourd'hui ils ont peur d'être submergés par la mer. Et en même temps, ce qui est intéressant, et ça nous renvoie à Copenhague, dont on va parler avec Karine Gavant, c'est que le nouveau maire de cette île s'est engagé à faire 40% de réduction des consommations d'énergie, 40% d'énergie renouvelable, ce qui veut dire qu'on ferait au niveau mondial ce qu'on fait sur cette petite île, eh ben, on échapperait à la catastrophe de l'emballement climatique.
Alors la mer, on en parle beaucoup en France en ce moment, puisque le Grenelle de la mer, cette grande concertation qui a duré 5 mois, vient de rendre ses conclusions. Alors hier, au Havre, dans l'ouest de la France, Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur ce Grenelle de la mer. Et le président français a promis que la France négocierait désormais ses quotas de pêche attribués par l'Union européenne sur la base d'avis scientifiques fiables, indépendants et partagés. Alors c'est une bonne nouvelle ça, parce que jusqu'à présent, c'est vrai que la France avait plutôt tendance à plaider régulièrement pour une augmentation de ses quotas de pêche pour satisfaire les marins pêcheurs. Et certaines propositions comme l'inscription du thon rouge à la CITES, c'est-à-dire considérer que le thon rouge finalement est une espèce menacée, tout ça, selon les écologistes, ça va dans le bon sens. Alors vous, Yannick Jadot, vous avez été un des grands acteurs du Grenelle. Comment est-ce que vous voyez cette évolution ?
Écoutez, c'est toujours difficile d'interpréter les propos du président de la République, parce que vous vous souvenez, il y a un an et demi, il était à Boulogne et il disait il faut s'affranchir des quotas. Et ça a donné lieu aux grandes manifestations des pêcheurs de la partie nord de la France l'hiver dernier, parce qu'ils se sont dit on n'a plus de quotas. Donc on peut pêcher, et au bout d'un mois, un mois et demi, ils avaient rempli leur quota, et donc ils étaient furieux. Moi, quand j'entends qu'on va respecter l'avis des scientifiques, je me dis c'est bien. Quand on me dit en même temps qu'il faut peut-être réformer cette science pour qu'elle soit mieux partagée, je ne sais pas trop ce que je dois y trouver. Aujourd'hui, il y a des scientifiques qui, au niveau européen, émettent des avis. Jusqu'à maintenant, effectivement, la France a toujours tenté de combattre ces avis pour défendre certains pêcheurs, parce que une bonne partie des pêcheurs savent aujourd'hui que s'il n'y a pas de pêche demain, il n'y aura plus de pêcheurs. S'il n'y a pas de poisson, il n'y a plus de pêcheurs. Et donc, moi, quand on me dit on va respecter les avis scientifiques, c'est bien, mais quand on me dit que la science qui existe aujourd'hui, a priori, n'est pas bonne, je suis inquiet.
On se base sur quoi, alors ?
Donc, sur quoi on va se baser pour déterminer les quotas de pêche ou ce qu'il faut réformer ? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut réformer la régulation de la pêche, parce qu'aujourd'hui le système de quotas marche pas très bien, il donne pas beaucoup de visibilité, beaucoup de marins pêcheurs et notamment ceux qui sont les pêcheurs artisanaux ne comprennent pas bien comment tout ce système fonctionne, donc il faut décentraliser ce système pour avoir des systèmes gérés au plus près de la ressource, pour que ce soit le plus intelligent possible. Mais quand j'entends, moi, qu'on va mettre le thon rouge à la CITES, c'est un combat des associations que je soutiens. Simplement, si le thon rouge va à la CITES, c'est parce que la France s'est refusée à réduire fortement les quotas de pêche du thon rouge pour défendre ses thoniers seineurs sur la Méditerranée. Donc on est dans un système où on va gérer la disparition possible, probable, du thon rouge, parce que de l'autre côté, on ne met pas de quota. Donc tout ça est assez incohérent. Voyons ce que seront les résultats. Pour l'instant, ce que je n'ai pas vu non plus dans les résultats du Grenelle de la mer, c'est les moyens qui permettront de mettre en place toutes les mesures qui ont été évoquées. C'est un peu le même problème qu'on a sur l'ensemble des Grenelles. On a plutôt des bonnes décisions, mais au finish, la mise en œuvre, ça pêche.
المالي الفرد لك حلوة راني جبتو ريحتو هدية لي
Sur RFI dans C'est pas du vent et on s'intéresse maintenant à l'actualité environnementale d'une région du monde, direction le Proche et le Moyen-Orient.
Et le Proche et le Moyen-Orient, c'est avec vous, Nicolas Falaise, bonjour.
Bonjour.
Alors on part dans le Golfe avec ces inquiétudes des Émirats Arabes Unis face aux importations illégales de végétaux et d'animaux, Nicolas.
Oui, des animaux, des plantes et même des semences importées illégalement dans le pays peuvent nuire à la faune et à la flore locale dans un environnement déjà fragile. C'est ce que nous apprend le quotidien Golf News des Émirats Arabes Unis. Exemple, la terre d'une plante peut transporter des bactéries qui contaminent d'autres végétaux du pays, pas seulement des microbes. On a ainsi l'exemple d'une espèce de serpent qui a fait son apparition dans le pays parce que les œufs du reptile étaient contenus dans la terre d'une plante en pot qui avait été importée illégalement aux Émirats Arabes Unis par un voyageur qui voulait certainement s'installer avec ces plantes vertes. Alors le pays lance une campagne d'information baptisée « Ce que vous transportez peut vous nuire », information auprès du grand public, donc principalement des voyageurs, mais aussi formation des personnels des douanes, des aéroports, des compagnies aériennes pour qu'ils rehaussent leur niveau de vigilance face à ce phénomène. Alors il s'agit de traquer des transports qui peuvent paraître anodins, comme faire voyager un chat, un chien ou une plante en pot, on l'a dit, mais pas seulement, puisqu'il est aussi demandé à cette occasion aux professionnels concernés d'ouvrir l'œil sur les produits interdits par les conventions internationales. Il s'agit bien sûr de l'ivoire, ou des peaux et fourrures de certains animaux.
Et on reste dans la péninsule arabique avec la découverte d'une nouvelle espèce de poisson à Oman.
Oui, a priori, il n'est pas arrivé dans le pays par l'aéroport. Il est apparu dans un cours d'eau douce de la région du Dhofar, dans le sud du sultanat d'Oman. C'est une information importante pour les spécialistes, dans la mesure où on ne dénombrait jusque-là que 16 espèces de poissons d'eau douce dans la péninsule arabique. Le poisson fait partie de la famille des Gara. C'est un petit poisson. Cette nouvelle espèce a été baptisée Gara Smarty. Pourquoi ? Parce que la scientifique britannique qui l'a identifiée s'appelle Emma Smart. Alors, ouvrez l'œil, Anne-Cécile. Peut-être que si vous découvrez un poisson, un mammifère, on lui donnera votre nom. Voilà.
Si vous avez un nouveau poisson dans votre bocal, faites-le étudier.
Voilà. Très bien.
Alors, poisson encore, mais cette fois au Liban.
Et là, on ne parle pas de poissons nouveaux qui apparaissent, mais d'animaux qui disparaissent ou se font plus rares. Inquiétude des quelques 8000 pêcheurs de la ville côtière de Tyr, c'est dans le sud du Liban, des pêcheurs qui voient leur pêche quotidienne se réduire de manière dramatique. Les causes de cette raréfication s'appellent surexploitation, pollution, pêche à la dynamite. Les espèces les plus touchées sont le mérou, le rouget et le barracuda, inquiétude des pêcheurs donc, mais aussi des scientifiques qui plaident pour la création de réserves marines ou de zones protégées pour tenter d'enrayer le phénomène.
Merci Nicolas Falaise.
C'est pas du vent, @rfi.fr.
Alors Yannick Jadot, ces nouvelles du Proche et du Moyen-Orient vous inspirent quelques commentaires?
On est vraiment dans cette mondialisation aussi du point de vue de la biodiversité. On voit et c'est pas si loin ce que vous racontez des enjeux de la grippe A ou de la grippe porcine. On fait des recombinaisons d'espèces, tout ça voyage simplement parce qu'il y a un moment il y a une rentabilité qui est plus forte ici qu'ailleurs. Il y a toutes ces marées vertes ces pollutions de bactéries qui viennent d'ailleurs et qui se développe et donc c'est extrêmement inquiétant. On voit bien aussi le déplacement des ou la modification de la faune et de la flore liée au réchauffement climatique. Donc on est vraiment dans un système en ce moment de mutations extraordinaires Et ça renforce l'idée que lutter contre les changements climatiques, c'est un enjeu essentiel aussi du point de vue économique et social. On le voit dans la question de la pêche. Et puis, ce que dit aujourd'hui la communauté scientifique internationale, s'orienter vers plutôt une agriculture, des choses pensées au niveau familial, au niveau des territoires, c'est aussi éviter cette mondialisation qui est fortement porteuse de risques.
Alors justement, vous êtes député européen maintenant pour Europe Écologie. Comment est-ce que vous comptez, en termes de stratégie, faire exister ces convictions au sein du Parlement européen, sachant qu'il y a quand même une majorité conservatrice aussi?
Ben écoutez, ça va être tout l'enjeu du combat des mois à venir, hein, effectivement, c'est d'arriver à construire des majorités autour de ces préoccupations écologiques. Aujourd'hui, tous les partis politiques reprennent le discours écolo. Ils font cette distinction entre la prise en compte de l'environnement et l'enjeu de l'écologie politique. Ils essayent de penser de manière plus globale l'environnement, le social, l'économique. Mais incontestablement, on va pouvoir peut-être aussi les mettre dos au mur en disant « Vous prétendez défendre l'environnement, donc il faut absolument agir aujourd'hui. » Par le passé, le Parlement européen, même avec un groupe des Verts européen qui est minoritaire, a réussi à porter le paquet climat-énergie, a réussi à porter la réforme REACH, qui est cette obligation des entreprises aujourd'hui à évaluer les risques sanitaires de la chimie. Et donc, on arrive à construire des majorités autour des questions écologiques, mais l'enjeu des semaines à venir, vous l'avez dit au début de l'émission, c'est d'arriver à faire que la résolution du Parlement européen sur la question du climat et de la négociation internationale de Copenhague, oblige l'Europe à aller beaucoup plus loin que les objectifs qu'elle s'est fixés pour le moment.
Aujourd'hui, l'écologie est véritablement prise en compte dans la réflexion au plus haut niveau de l'appareil européen ?
Non. Non, faut dire les choses très clairement. Il y a un discours sur l'environnement, sur le climat, tout ça, mais aujourd'hui c'est essentiellement du discours. On le voit sur les plans de relance. On essaye toujours de segmenter les choses. On va dire oui, il faut protéger l'environnement, mais face à la crise, mais il faut continuer à subventionner les grands constructeurs automobiles pour qu'ils fassent exactement la même chose qu'avant. Quand nous on dit combattre les émissions de CO2, combattre la crise énergétique et combattre la crise automobile, ça peut passer par repenser l'automobile, repenser une politique des transports qui crée de l'emploi, qui crée de l'aménagement du territoire et qui protège l'environnement, là, il y a beaucoup moins de monde. Donc, pour la plupart des responsables politiques, ils font toujours cette segmentation entre l'écologie et ce qu'ils considèrent quand même être le sérieux, le business et la
croissance. Vous avez donc du pain sur la planche, Yannick Jadot.
Absolument,
merci d'être
oui.
passé dans C'est pas du vent. C'est pas du vent. On vient juste après un bref rappel de l'actualité. Nous parlerons climat. À tout de suite.